Octobre 1970, le jour où la machine pourpre a lâché ses chevaux de bataille. Warhorse, premier album. Le destin des groupes de rock est parfois cruel et pas toujours proportionnel à leur talent. Ainsi, celui du groupe Warhorse est voué à rester à tout jamais dans l'ombre de Deep Purple. En cette fin de décennie, la marque 1 de la machine pourpre a vécu, et le groupe désire aborder les 70s sous un ciel plus heavy. Les victimes directes de ce changement de direction sont le chanteur Rod Evans et le bassiste Nick Simper. Alors que Deep Purple est déjà en train de répéter le répertoire de In Rock avec les nouvelles recrues, Evans et Simper ne savent même pas encore qu'ils sont virés. Qu'à cela ne tienne, le premier s'envole pour les États-Unis pour former Captain Beyond. Quant à Nick Simper, il rejoint le backing band de la chanteuse afro-américaine Marsha Hunt, surnommée Brown Sugar, star de la comédie musicale Air. Simper en profite alors pour remanier le groupe et imposer un nouveau guitariste et un nouveau batteur. Cependant, dans l'intervalle, Marsha Hunt tombe enceinte et se voit contraint de mettre sa carrière entre parenthèses. Une aubaine pour Nick Simper qui voit l'opportunité de récupérer son ami Ashley Hawes, l'homme qui avait auditionné en 1968 pour le poste de chanteur chez Deep Purple avant d'être évincé par Rod Evans. Warhorse est presque au complet, il ne manque plus qu'un claviériste. Et c'est dans un premier temps, un certain Rick Wakeman qui officie au poste avant de rejoindre brièvement The Strokes et puis faire une brillante carrière en solo et avec le groupe Yes. Désormais, avec Frank Wilson au clavier, Warhorse, qui vient tout juste de signer avec le label Vertigo, peut enfin entrer en studio pour enregistrer son premier album. Un disque d'une excellente facture, qui déploie une puissance de feu hors du commun. Les morceaux sont sombres et particulièrement attaquants. Le duo harmonique de guitare et d'orgamone rappelle étrangement celui de Lord et Blackmore. Quant à la voix du chanteur, elle se situe à mi-chemin entre celle de Ian Gillan et Ronnie James Dio. Dommage pour Deep Purple qu'il n'ait pas décelé cela 2 ans plus tôt. Au final, l'album aurait pu être le trait d'union parfait entre le troisième disque de Deep Purple et In Rock. Mais malgré ses grandes qualités, l'album de Warhorse ne décollera pas, souffrant certainement d'un manque de promotion de la part du label Vertigo, bien trop occupé à lancer Black Sabbath. Pourtant, pour tous les inconditionnels de hard rock, ce premier opus de Warhorse reste aujourd'hui encore un excellent cheval de bataille. City where I was.